Est-ce que vous avez déjà cherché votre place ? En travail, en amour, en famille, dans votre maison, par rapport à l'argent, par rapport à votre corps, par rapport au mental ? C'est exactement le sujet du livre de Natacha Calestrémé qui s'appelle « Trouver ma place » et qui propose 22 protocoles pour accéder au bonheur. Et avec Natacha, aujourd'hui, on parle évidemment de toutes ces choses-là. Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire de trouver sa place ? Quelle est la place des autres aussi ? Est-ce que c'est une charge mentale qu'on doit prendre en plus ou est-ce que à l'inverse, il y a une position pour les personnes accompagnantes. Comment on fait pour dépasser des peurs qui sont limitantes en général ? On parle de beaucoup de choses avec Natacha et vous allez voir, c'est une conversation assez intime. Voilà, il se passe quelque chose qui est assez incroyable. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Natacha.
Bonjour Grégory.
Comment ça va aujourd'hui ?
Bah, super bien, et puis très heureuse d'être invitée sur Vlan Podcast.
Eh ben, je suis ravi aussi. Vous avez écrit deux livres qui ont tous les deux énormément de succès. Et le deuxième, c'est de ça dont on va parler, c'est de trouver sa place. La première question que je me pose, de manière peut-être un peu enfantine, ça veut dire quoi de trouver sa place, sachant qu'on pourrait se dire philosophiquement, bah, je suis à ma place déjà. Alors pourquoi vous avez écrit ce livre et qu'est-ce que ça veut dire de trouver sa place ?
Mais parce qu'en fait, quand j'écris La clé de votre énergie, au départ, je me dis, bah, tout ce qui intéresse les gens, c'est effectivement d'être au top de son énergie, d'aller bien, de se trouver, d'être en forme. Et je réalise après que bah, y a des personnes pour qui bah, ça va plutôt bien. Au niveau de la santé, c'est pas mal. Au niveau du boulot, ça va bien. Au niveau du couple aussi. Globalement, les choses vont plutôt bien. Mais il y a un petit quelque chose à l'intérieur de soi, qu'on s'avoue ou pas. Qui parfois est un peu inconscient, qui fait qu'il y a une frustration à l'intérieur de soi en se disant « je mérite mieux ». ».« Je mérite mieux », ça peut être « je mérite mieux dans mon travail ». Je pense que je pourrais être plus visible. Je pense que peut-être mon patron, il me met pas en valeur comme je voudrais, ou peut-être que ma collègue, elle me prend toutes mes idées, ou je n'arrive pas à me lancer dans ma profession ce que je voudrais. J'arrive pas à avoir en tout cas l'éclairage qui me semble être légitime. La question peut se poser également dans son couple. Comment je fais pour briller en société quand je me rappelle d'une femme qui était rédactrice en chef, son mari était journaliste, et elle me dit j'ai plus de choses à dire que lui, mais on ne lui parle qu'à lui. Voilà, j'ai eu des hommes qui m'ont dit vis-à-vis de mes enfants, je n'ai pas ma place. C'est-à-dire que mes enfants se réfèrent à ma femme dès qu'il y a quoi que ce soit, et moi je compte pour du beurre ou le contraire. Voilà, mais ou bien par exemple des parents ou des grands-parents qui ne voient plus leurs petits-enfants, ils ont perdu leur place de grands-parents. Et très souvent ce problème de place dans le couple, dans le travail ou même vis-à-vis de l'argent, je n'arrive pas, ou de la société, je n'arrive pas à trouver ma place dans la société, est en lien avec un problème de place dans la famille, en fait, dans notre enfance. Est-ce qu'on a été finalement regardé par notre père et notre mère de la même façon, de la manière dont on espérait ? Est-ce que on a été comparé à nos frères et sœurs, d'une manière ou d'une autre ? Et j'ai rencontré à travers les différentes interviews que j'ai données des personnes très connues qui, sur le papier, avaient tout, mais qui pourtant avaient une insatisfaction à l'intérieur d'eux, parce qu'ils n'avaient toujours pas eu, peut-être à 50 ans, la reconnaissance de leur père ou l'amour de leur mère, ou en tout cas, il y avait quelque chose à l'intérieur d'eux qui disait, enfin, comme une course vers quelque chose qui était inatteignable. Et donc, cette problème de place, en fait, il est central. Et je dirais qu'un indice pour savoir si on a un problème de place ou pas, est de savoir si on râle quand on est dans la mauvaise file du supermarché, quand on râle, quand on est sur l'autoroute et que notre file n'avance pas autant que les autres, si on a cette espèce de frustration, peut-être que ça vous parle, mais cette espèce de frustration, flûte, je suis pas dans la bonne file, ben, il y a quelque chose de l'ordre de la place qui en nous ben, grince un peu.
Il y a plein de trucs que j'aime bien dans le livre et une des choses que j'ai beaucoup aimé, c'est que le livre débute d'abord sur s'épanouir avec les autres avant de s'épanouir avec soi-même. Et je veux savoir, c'est une question que vous vous êtes nécessairement posée parce qu'on parle beaucoup de lien à soi, aux autres, à la nature. Pourquoi vous avez commencé à s'épanouir avec les autres avant de démarrer par s'épanouir avec soi-même?
Parce que très souvent, on prend conscience qu'on n'est pas totalement heureux quand ce sont les autres qui nous montre, qui nous renvoie en fait cette difficulté. Si tout va bien dans la vie, bon, pourquoi est-ce qu'on irait chercher de quoi aller mieux? En tout cas, ça a été mon problème. Moi, j'ai attendu d'être totalement au bout du rouleau pour me rendre compte qu'il y avait un vrai problème et qu'il fallait que je me guérisse, que je répare mes failles et mes blessures. Mais c'est, si, pour reprendre l'exemple de la voiture, on part au travail. Et puis, il y a quelqu'un qui nous fait une queue de poisson, et alors qu'on est à notre place tranquillement en train de rouler, en train d'écouter la musique et tout ça, il nous fait un geste horrible, pour pas dire lequel, et puis on se fait engueuler derrière, on arrive au boulot, on va plutôt bien, mais même si ça nous a un peu travaillé, et là notre patron, avec qui on a toujours en avance, nous dit, on a 5 minutes de retard, et puis il nous dit, t'es en vacances ou quoi? Voilà. Et donc, finalement, ce sont les autres qui nous renvoient le fait qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, se dire « je ne vais pas, je fais un travail pour essayer d'aller mieux », c'est vachement difficile. Alors qu'on a tendance, nous humains, parce qu'on est faillibles, de se dire que ouais, la société, ouais, les gens sont pas cool, les gens sont énervés, les gens sont agressifs, les gens, je comprends pas, j'en ai marre d'être sous contrainte, voilà. Et les gens, et donc les autres, et le fait finalement de s'intéresser d'abord aux autres, c'est pour nous permettre d'accepter que finalement les autres ne sont qu'un miroir de nous-mêmes. Et que si on trouve de l'agressivité, de la colère chez les autres, c'est que cette agressivité, cette colère, elle est à l'intérieur de nous, probablement cachée, probablement non exprimée, et qu'il est possible, comme une confirmation finalement, que notre corps nous dise que cette colère et cette agressivité à l'intérieur de nous, si on a des douleurs par exemple à l'estomac, si on a des douleurs au niveau des cervicales, si on est, excusez-moi le terme, un peu constipé, voilà, s'il y a quelque chose de l'ordre, voilà, de l'ordre de la rigidité, la structure, j'essaie de contrôler, ben, ça veut dire qu'il y a des peurs, et ces peurs, elles sont souvent liées voilà, à une colère non exprimée, voilà.
Ça fait beaucoup penser à Jung et aux ombres, ce que vous dites. C'est-à-dire, en fait, quand on critique l'autre, souvent, c'est un miroir de nos propres pas problèmes, mais je sais pas comment dire.
De nos blessures, bien
ouais,
sûr.
Oui, des blessures.
Bien sûr. Et j'aime bien citer Jung qui dit que la conscience cosmique, alors ce sont ces termes, moi je le traduis par l'univers, la conscience cosmique s'arrange pour faire revenir finalement sans arrêt dans notre vie des situations jusqu'à ce qu'on s'en libère. Et donc, l'univers, finalement, met sur notre chemin des personnes et des situations jusqu'à ce qu'on se libère de certaines blessures qui souvent ne nous appartiennent pas, d'ailleurs. Ce sont des blessures héritées.
Oui, bien sûr. Et alors, justement, du coup, comment on fait pour trouver... Alors, c'est la question un peu à mille dollars, mais comment on fait pour trouver sa place? Donc, il y a plusieurs thématiques. Il y a le travail que vous traitez, l'amour, la famille, la maison, l'argent, le corps, le mental. Donc, on ne va pas forcément prendre une par une, parce que sinon, ça serait déjà beaucoup trop long. Et puis, je pense que ceux qui sont intéressés, ils peuvent aller jeter le livre et aller voir. Je pense qu'un des sujets... Voilà, plusieurs sujets, évidemment. Enfin, tous, ils sont hyper pertinents, en fait. Mais on va commencer peut-être par l'amour, qui est un sujet, je pense, qui touche beaucoup de monde. Et voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, pas trouver sa place? Et puis, il y a une question derrière que je trouve intéressante. Est-ce qu'on est En fait, dans le développement personnel, il y a quand même ce côté. Alors, je sais pas d'ailleurs si vous vous définissez comme du développement personnel, ça c'est une vraie question. Mmh. Et puis, il y a une question de responsabilité. Est-ce que c'est sa responsabilité à soi de paraître à sa place, ou est-ce que cette société assez hyper individualiste, capitaliste, donc hyper individualiste, elle nous a fait oublier que l'essentiel, et c'est pour ça que j'aime bien que vous commenciez par le soin, par s'épanouir avec les autres, c'est que on doit prendre le soin des uns des autres aussi. Donc peut-être démarrer par qu'est-ce que vous pensez du développement personnel sur cette histoire de responsabilité, et puis après on ira sur des thématiques.
D'accord. Alors le développement personnel, bon, c'est un mot valise, un peu fourre-tout. Oui, le développement personnel sur le plan de la sémantique, c'est un moyen de changer soi-même et de se développer autrement. Et là où ça résonne pour moi, c'est que je me dis que finalement une épreuve, c'est le terreau, pour pas dire le fumier, le terreau indispensable pour nous aider à pousser autrement. C'est-à-dire que nous sommes tous de belles plantes, mais un rosier, pour qu'il ait de très belles fleurs, qu'il s'épanouisse pleinement, eh bien, il faut lui mettre ce qu'on appelle des entrants, donc du fumier, du crottin de cheval, voilà. Et excusez-moi ce terme, mais ces merdes-là, ce sont nos épreuves. Voilà. Mmh. Et donc, c'est grâce à ces épreuves, entre guillemets, que finalement, on va pouvoir s'épanouir autrement. Et c'est vrai que j'ai connu plusieurs deuils dans ma famille.
Bien sûr.
Mais voilà, et même le deuil, on pourrait se dire, mais comment on peut se relever d'un deuil? Même le deuil est une opportunité de se réinventer, de comprendre le message, d'aller autrement, voilà, d'avancer autrement. Donc, développement personnel, ça me parle. Maintenant, on peut dire recherche. Voilà, du bonheur pour aller mieux. Après, peu importe comment on peut l'appeler.
Et en plus, enfin, ce que vous disiez, vous avez connu des deuils, vous avez perdu votre petite sœur, si je me trompe pas.
Oui, oui.
Donc, c'est des choses qui sont hyper difficiles, j'imagine, pour vos parents aussi. Ça a été une épreuve monumentale. Enfin, en fait, j'imagine pas pour des parents de perdre ses enfants. En fait, je crois que c'est
c'est
très compliqué.
C'est inconcevable. Et mes parents sont l'exemple même. Je suis très admirative de ce qu'ils ont mené. Ma mère est tombée en dépression grave, bien sûr. Et pendant des années. Mais aujourd'hui, à 82 ans, elle travaille toujours. Elle s'est totalement relevée de sa dépression. Ils se sont tous les deux réinventés. Mon père a décidé qu'il serait plus jamais malade, alors qu'il était hypochondriaque.
Wow.
Il continue à s'émerveiller. Son petit mot, c'est j'ai visité une église romane qui était de toute beauté. Tout de toute beauté. Il m'a envoyé un petit mot derrière d'un moment en disant « On est allé à La Rochelle, regarde cette plage qui est de toute beauté. Ouais. La vie de toute beauté à 92 ans. » Mais quel beau message. Et ma mère apprend à ses, comment dire, elle fait des petites prestations dans comment dire, elle permet des médiations en fait entre les assistants sociaux et les enfants pour comment dire, transmettre une épreuve, un mal-être dans une marionnette. Voilà.
Ah.
Et elle apprend à ces jeunes à apprendre aux enfants comment se libérer finalement d'un mal-être à travers une marionnette. Bon, c'est magnifique.
Wow. Et d'ailleurs, alors, du coup, avant d'aller sur l'amour, j'ai parlé de choses qui me touchent aussi. Moi, j'ai une personne très proche de moi qui a perdu deux enfants qui sont morts-nés, en fait. Deux fois de suite, donc c'est hyper difficile. Est-ce que ça, c'est des épreuves? Enfin, comment on se relève d'une épreuve comme ça? Et alors, je pense que ça va être intéressant d'aller dans les protocoles, que vous expliquiez un petit peu la manière dont vous envisagez les choses. Comment on peut se relever d'un truc pareil? C'est horrible, hein. Enfin, je veux dire, clairement.
C'est atroce. Alors, à partir du moment, ça, je détiens pas la vérité. Je partage juste mon expérience avec des milliers, pour ne pas dire des dizaines de milliers de cas. D'après mon expérience, une personne qui fait une fausse couche, une interruption de grossesse ou qui perd un jeune enfant, ce n'est pas la première fois que ça arrive dans la famille. Mmh. C'est arrivé avant elle. Auprès de sa mère, où ça peut sauter une génération, la grand-mère. De toutes les manières, c'est arrivé avant. Et si c'est arrivé, c'est pour que finalement, encore une fois, pour moi, c'est un message de l'univers, d'une âme qui a décidé de s'incarner de manière très courte, pas faire plus court, pour exprimer le fait que avant cette âme, il y en a eu d'autres. Mmh. Et ces autres âmes n'ont jamais trouvé leur place. Ce que je veux dire, c'est que quand on fait une fausse couche, quand on fait une interruption de grossesse, quand on perd un jeune enfant, c'est quelque chose dont on ne parle jamais.
Mmh. Trop c'est de complètement tabou. Hein. Mmh.
Trop de tristesse, trop de culpabilité, trop de chagrin. Et donc, ce sont des âmes qui n'ont parfois eu jamais de prénom, jamais été mis en lumière, on n'en parle jamais. Et comment on fait, nous, pour trouver notre place, si on a hérité, par exemple, d'une mère ou d'une grand-mère qui ont fait des fausses couches? Donc ça, c'est une question super importante, c'est-à-dire que j'ai d'en trouver ma place, il y a un protocole qui est le protocole 7+, qui est entièrement dédié à ça. Mmh. Et dans toutes les familles, il y a des fausses couches. Dans toutes les familles, il y a eu des morts de jeunes enfants. Mmh. Il y a nos grands-mères ont toutes, ou pas loin, perdu un enfant, un jeune enfant, une fausse couche, une interruption de grossesse. C'est dans toutes les familles. Bon. Et ces âmes-là n'ont jamais existé. Et le protocole 7+, il commence en disant « Aux âmes qui se sont incarnées de manière si courte, je donne ce prénom. » Et on leur donne un prénom, parce que ça commence comme ça. On leur donne une place. Et finalement, si nous-mêmes, on a vécu ce drame, eh bien, c'est comme si l'âme de cet enfant nous disait « Il y en a eu d'autres avant, beaucoup, puisqu'elle en a eu deux, dans votre cas, et en faisant ce qu'il faut pour les remettre dans la lumière, les choses vont s'arrêter. » Donc ça, c'est une première chose pour réparer en fait la lignée. Et après, il peut y avoir une autre signification. J'en parle dans le chapitre « Avoir un enfant ». Mmh, mmh. C'est que si dans la famille, il y a une personne qui, par exemple, imaginons une grand-mère dont le mari est parti à la guerre. Mmh. Elle a élevé 5 enfants seule, ou même 3 enfants, et elle a pu se dire « Élever 3 enfants toute seule, c'est très dur. Ouais. » Et ça s'est engrammé dans son corps, ça c'est l'épigénétique qui le montre, c'est scientifique, que de manière totalement inconsciente, il y a pu y avoir une croyance limitante à élever 3 enfants toute seule, c'est très dur, ça devient « élever un enfant, c'est dur » et ça devient « avoir un enfant, c'est dur ». Et donc nous, petites filles de cette grand-mère, eh bien on a du mal à avoir des enfants parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui s'est transmis. Mmh. Je prends un autre exemple. Imaginons un monsieur, que notre père, par exemple, se soit marié avec notre mère parce qu'elle était enceinte. Et qu'au fond de lui, il n'était pas vraiment amoureux de notre mère. Il a pu à l'intérieur engrammer dans son corps le fait que, à cause d'un enfant, je ne suis pas heureux dans ma vie. Et nous, enfants, on se dit, on ne comprend pas, on se dit, je n'arrive pas à avoir d'enfant ou quand j'ai un enfant, ça se termine mal.
Bien sûr.
Quand j'ai un enfant, ça se termine mal. J'ai des frissons. À mon avis, ça parle à quelqu'un, ça. En quelqu'un qui nous écoutera, qui nous écoute. Voilà. Du coup, voilà. Avoir un enfant, ça se termine mal. Pour moi, je ne suis pas heureux. Et la personne, finalement, ben, avoir un enfant, ça se termine mal. Il y a une perte d'enfant. Voilà. Et donc, il suffit de faire ensuite le protocole 6+, qui consiste d'un côté à récupérer l'énergie qu'on a perdue, mais ensuite à se libérer émotionnellement d'un fardeau qui ne nous appartient pas. Parce que cette vision finalement de l'amour, on en revient au sujet que vous vouliez traiter autour de l'amour, qui n'est pas atteint, l'amour tel qu'on en rêvait, n'est pas atteint, eh bien, à cause finalement de cette grossesse. entre guillemets. D'accord. Et donc, ça crée un frein à l'intérieur de nous. Et pourtant, ce n'est pas quelque chose que nous avons vécu.
Complètement. Complètement.
Voilà. Et donc, on va pouvoir se libérer en disant, voilà, par exemple, mamie, tu aurais tellement préféré être accompagnée pour élever tes enfants. Tu m'as transmis cette croyance limitante. Et de mon côté, je vis ça. C'est terminé. Je m'en libère comme je t'en libère. Ou bien, papa, tu as vécu ça, etc. Voilà.
Et une question que je me pose, ce que je disais tout à l'heure, il y a une question autour de la responsabilité individuelle. Comment on fait, par exemple, moi, c'est une personne que je connais qui est très proche, comment on fait quand on est accompagnant? Parce que moi, je pense qu'une des clés, mais c'est ma croyance, c'est de justement prendre soin des uns des autres. C'est-à-dire, évidemment, être assez ancré en soi pour ensuite pouvoir aider les autres. Et c'est ce que j'essaye de faire aussi avec ce podcast par ailleurs. Alors, comment on fait quand on est accompagnant? Parce que ça peut pas, enfin, je sais pas si ça peut être que le rôle de la personne de travailler comme ça sur ses blessures.
Quand vous voulez dire accompagnant, c'est-à-dire un côté thérapeute?
Non. Quand on est quelqu'un de proche, tout simplement.
Alors, déjà, elle est très intéressante votre question, merci. À partir du moment où la vie d'un proche nous touche, c'est que ça fait caisse de résonance, toujours l'effet miroir. C'est-à-dire que si on est touché par ce que vit la personne, eh bien, ce que je propose d'en trouver ma place, c'est peut-être de fermer les yeux et se dire comment je vis ce qu'elle vit. Est-ce que je le vis comme, et ça regarde que vous, est-ce que je le vis comme une trahison, comme une injustice, comme une humiliation, comme un abandon, comme un rejet? Je le vis avec de la colère, ça me donne des peurs, est-ce que ça me rend triste? Est-ce que je me sens impuissant? Est-ce que je me sens coupable? On va essayer de se relier à une de ces 10 émotions douloureuses, et une fois qu'on a vécu, qu'on a mis le mot sur une ou deux émotions douloureuses, on va aller chercher dans notre famille déjà si ça fait écho. Si par exemple on se sent impuissant et que ça nous met en colère et peut-être un peu triste, eh bien on va aller chercher dans notre famille qui s'est senti impuissant, quel que soit le domaine, qui a ressenti de la colère et qui a été triste. Et on va pouvoir faire les protocoles. Ça, c'est déjà comprendre que à travers ce qui nous touche chez l'autre, ça met en exergue de nous-mêmes. Mais après, pour aider l'autre, eh bien, on peut très bien lui proposer de faire des protocoles avec elle. Et par exemple, en lui disant, bon, écoute ce podcast, Vlan Podcast, si ça te parle, moi, je peux te proposer de t'accompagner. Et j'ai beaucoup de personnes qui me disent, on le fait à deux, entre amis, entre frères et sœurs, entre, voilà. Je lis les phrases et toi, tu les répètes. Mais dans ces protocoles, à un moment donné, il faut vider son sac, il faut dire ce qu'on a sur le cœur. Et quand on fait quelque chose, par exemple, avec son conjoint ou avec ses parents, il y a des choses parfois où, si c'est dans le cas de frères et sœurs, on n'a pas forcément envie que notre frère ou notre sœur, il sache ce qui nous est arrivé, s'il y a eu peut-être des attouchements, des choses un peu dures, etc. On n'a pas envie. Et donc là, moi, je conseille que si on accompagne la personne, au moment où elle vide le sac, où elle dit ce qu'elle a sur le cœur par rapport à la personne avec qui elle fait le protocole, voilà, pour récupérer son énergie, eh bien, l'accompagnant sorte et dise « Tu me rappelles quand tu as fini de vider le sac ?» et on continue. Voilà. Ça, c'est tout à fait ce qu'on peut faire. Mais sachant que ces protocoles, on peut les faire tout à fait seul et qu'on n'a pas besoin de faire revenir la personne avec qui on fait le protocole. Si jamais on le fait avec un ex, on n'a pas besoin de lui dire « Au fait, je t'ai quitté depuis 10 ans. Est-ce que tu peux revenir, s'il te plaît? J'ai un protocole à faire avec toi. » Non, ouf, on n'a pas besoin. Et c'est aussi pour ça que ça marche très bien quand on le fait avec des personnes défuntes. On n'a pas besoin qu'elle se réincarne. Sinon c'est un peu compliqué. Voilà, pour le faire.
Et d'ailleurs, vous parliez d'attouchement. Si je me trompe pas, vous avez accompagné votre mari, parce que donc votre mari, je l'ai reçu sur ce podcast, Stéphane, et vous l'avez accompagné avec ses protocoles. Enfin, je ne sais pas si c'est avec ses protocoles d'ailleurs,
oui,
dans
dans le fait qu'il découvre qu'il a été abusé quand il était jeune, etc. Je ne sais pas si vous voulez en parler ou pas du tout, d'ailleurs.
Oui, mais il n'y a pas de problème, parce que c'est quelque chose que je n'aborde pas forcément, donc au contraire, c'est une belle occasion. Alors, ça rejoint un petit peu ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, et merci, parce que pour finir, par rapport à l'accompagnant, si la personne qui a un problème n'est pas demandeuse, il faut le respecter.
Bien sûr.
C'est parce qu'elle n'est pas prête, il ou elle n'est pas prêt, et donc il faut le respecter et pas faire de chantage. Tu sais, si tu fais pas ces protocoles, eh ben pour toi tu vas pas t'en sortir. Non, c'est quand c'est le bon moment pour soi, et c'est juste. Et il y a que la personne qui sache quand est-ce que c'est le bon moment pour elle. Et donc Stéphane Alix, effectivement mon mari, m'a sollicité. Moi, je lui ai dit si tu as besoin de faire les protocoles de libération, parce qu'en fait il y a un premier protocole, c'est le protocole 5, qui est un reset énergétique qui permet de récupérer notre énergie quand on a vécu une épreuve. Quelle que soit l'épreuve et quel que soit le nombre d'épreuves, on n'a pas besoin de les citer. Donc ça, ce petit protocole 5 que tout le monde devrait faire finalement, qui est très simple, qu'on peut faire, voilà. Je lui ai dit, celui-là, si tu veux, moi je t'explique comment faire, tu peux le faire tout seul ou sinon je peux t'aider à dire les phrases et le faire. Et puis après, il y a le protocole 6 qu'on fait avec son agresseur pour justement récupérer toute l'énergie qui nous a prise dans cette agression. Et ça, c'est terrible. Et généralement, quand on fait ce protocole 6 avec un agresseur, il faut faire que celui-là parce que ça remue énormément. Bon. Et je lui ai dit, voilà, on peut le faire seul, je peux te montrer comment le faire. Tu le fais tout seul ou sinon je t'accompagne. Et il m'a dit, je veux bien que tu m'accompagnes parce que, voilà. Et donc, on l'a fait ensemble et on l'a refait d'ailleurs plusieurs fois. Et ça a été, je l'ai entendu hurler comme jamais, je l'ai jamais entendu hurler. Il s'est libéré, il y a quelque chose, voilà, il en parle dans son livre, Nos âmes oubliées. C'est quelque chose qui je crois l'a beaucoup aidé, sinon je pense qu'il l'aurait pas partagé.
Ouais, complètement. Et d'ailleurs, c'est sans doute, je sais pas si c'est le meilleur exemple, mais en tout cas, c'est un exemple, parce que voilà, c'est un exemple qui vous touche. Très personnellement, je veux dire, on peut pas être plus proche que ça, et ça a énorme, c'est un exemple qui parle très fort, évidemment.
Très fort, parce que c'est terrible, et c'est vrai que sur l'amnésie traumatique, puisqu'il se rappelait de rien, je savais, à travers les études, les livres que j'avais lus, que cela signifiait qu'il s'était passé quelque chose dans notre enfance, mais c'est pas forcément des attouchements ou un viol. Ça peut être l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, peut être déstabilisant au point qu'on oublie. Voilà. Donc il y a des choses comme ça, un accident, un deuil, voilà. Et moi je m'étais dit, Stéphane il a rien, c'est l'exception qui confirme la règle.
Ah waouh.
Tellement je m'attendais pas à ce qu'il ait vécu ça. Et je l'ai vu vraiment, tout son cheminement qu'il explique dans Nos âmes oubliées. C'était fabuleux de voir et combien voilà, il a cherché à se réparer. Et quel courage! Quel courage de partager ça!
Ouais,
je l'admire énormément.
C'est beaucoup de courage de se mettre autant en vulnérabilité, effectivement.
Ouais.
D'ailleurs, vous parliez de dissociation, enfin vous n'avez pas utilisé le terme, mais vous le mettez dans le livre, en fait, où vous parlez des différentes étapes qu'on traverse quand on passe dans une épreuve. Est-ce que vous pourriez les reprendre?
Bien sûr, c'est essentiel. Voilà. Alors, j'invite d'ailleurs ceux qui nous écoutent à penser à un événement douloureux. Ça peut être l'annonce d'un deuil, l'annonce d'une maladie, ça peut être un accident de voiture. Ça peut même être une gifle quand on est tout petit parce qu'on est démuni par rapport à une autorité, par rapport à quelque chose de violent. Et donc, il y a la première étape, ce sont les psychiatres qui en parlent, qui consiste à dire qu'on est dans un état de sidération. Donc, c'est comme si on était pétrifié. On ne bouge plus. La deuxième étape qui arrive en quelques secondes derrière, celle dont vous avez parlé, c'est la dissociation. C'est-à-dire que là, on est comme étranger à soi-même. On regarde la situation comme si c'était un film. La troisième étape est une fuite mentale. Là, on est incapable de penser. On est incapable de parler. Pour reprendre l'exemple de l'autorité d'un père ou d'une mère, et qui nous dirait « Mais pourquoi t'as fait ça? Réponds-moi !» Et on ne peut pas répondre, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas. Parce qu'on est dans un état de fuite mentale. Et parfois, devant un accident, j'ai des personnes qui m'ont dit « Oh là là, mais j'aurais tellement voulu lui dire des mots, j'ai pas su lui dire. » C'est pas qu'elle a pas su, c'est qu'elle a pas pu. Voilà. Et quand les psychiatres parlent de sidération, de dissociation et de fuite mentale. Les énergéticiens, les chamans parlent de perte d'âme. Donc, et la perte d'âme, finalement, l'âme, c'est quoi ? C'est le support de notre confiance, de notre estime, de notre conscience, c'est même le siège de notre énergie vitale. Et cet événement douloureux nous a fait perdre, justement, notre confiance en soi, notre estime de soi, une partie de notre énergie vitale. Voilà. Et c'est pour ça que, pour récupérer cette énergie, et il y a ce rituel chamanique qu'on appelle un recouvrement d'âme, que dans certaines civilisations, notamment au Cambodge, on appelle ça un rappel d'âme, et que j'appelle un reset énergétique, qui permet de récupérer cette énergie que l'on a perdue suite à différentes épreuves.
Et parce que on l'a pas mentionné, mais c'est vrai que les techniques, entre guillemets, que vous partagez dans le livre, c'est des techniques qui sont ancestrales, en fait. C'est-à-dire que c'est des méthodes qui ont déjà été utilisées pendant des milliers d'années par des humains.
Complètement. Il y en a certaines, celles que je partage pour enlever les brûlures, donc ce qu'on appelle couper le feu, et ce sont des techniques qui étaient écrites en latin. Je n'ai rien inventé en dehors du protocole 7+ dont je parlais tout à l'heure par rapport aux enfants incarnés de manière si courte. Je n'ai fait qu'aménager. Et puis, mettre au goût du jour, aménager, voilà, par exemple, donc ce reset énergétique, le protocole 6 que l'on va faire, j'ai rajouté par exemple certaines choses parce que je sais pas si vous êtes papa, mais en tout cas quand on est parent, on prend de l'énergie à nos enfants parce que dès qu'on souffre, on fait vivre de l'adversité à nos enfants, c'est mathématique. De la même manière que nos parents nous ont pris de l'énergie, c'est mathématique. Nous, on prend de l'énergie à nos enfants. Et donc, j'ai rajouté une phrase, si malgré moi, j'ai pris de l'énergie à mon enfant ou à mes enfants, on cite leur prénom, je la leur rends tandis que je récupère celle que un tel m'a prise. Voilà. Et à travers cette phrase, eh bien finalement, on va pouvoir redonner de l'énergie qu'on a prise malgré nous à nos enfants.
Et d'ailleurs, en parlant d'enfants, vous parliez d'épigénétique, mais il y a aussi l'éducation. Simplement, j'ai l'impression qu'on passe des choses à ses enfants malgré soi, à travers l'éducation, par exemple. Enfin, j'ai cet exemple en tête d'une amie à moi qui a très peur des guêpes, et du coup, sa fille, elle a très peur des guêpes aussi, et c'est simplement que, en voyant sa mère, je pense qu'elle a par mimétisme, et du coup, elle a pris ça en elle, et c'est très... Et je me pose toujours la question, quand je vois quelqu'un qui a peur des chiens, quand je vois quelqu'un qui a des peurs XY, je me demande toujours d'où ça sort, pourquoi c'est là
C'est très intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que vous avez raison, l'éducation, enfin le mimétisme fait que cette jeune fille a la même peur que sa mère. Je traite d'en trouver ma place. La question, c'est plus vers la fin du livre, des phobies et des tocs, etc. Parce que ça peut être une vraie phobie, la peur des guêpes, etc. Et ce que je propose dans le livre, c'est justement de regarder la symbolique. La guêpe, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente quelque chose qui est petit, qui pique, qui fait mal et dont on peut avoir peur. Et donc, symboliquement, j'aurais envie de dire à cette maman, est-ce qu'elle n'aurait pas hérité d'un fardeau émotionnel dans sa famille, de quelqu'un qui a été agressé, piqué, par quelqu'un qu'elle n'attendait pas. Spontanément, je pense à... peut-être une agression sexuelle ou physique de quelqu'un de la famille ou de quelqu'un qui est proche. Imaginons qu'une tante ait été violée par son frère ou quelque chose comme ça. On n'attend pas ça de son frère. On a été piqué, pour ne pas dire autre chose. Et ça nous crée une peur monstrueuse. Voilà. Symboliquement, Freud ne pourrait pas dire le contraire, il y a quelque chose de l'ordre qui se rejoue. Et voilà. Et c'est cette peur-là qu'il faut analyser, essayer de chercher. Et c'est pas évident de comprendre que la phobie des guêpes, eh bien, c'est peut-être un héritage d'une grand-mère qui a vécu quelque chose de cet endroit-là ou une tante. Et c'est pour ça que, dans Trouver ma place, j'ai à cœur de proposer, chaque fois qu'on vit quelque chose, une épreuve, de proposer, en fait, les différentes épreuves que notre famille a pu vivre. Voilà, je donne des différentes propositions, pour des pistes en fait, pour qu'on puisse trouver.
Mais c'est hyper méthodologique d'ailleurs comme livre, c'est-à-dire qu'en fait il y a même des tableaux qu'on peut remplir, enfin voilà, c'est vraiment, il y a une méthodo, quoi. Une méthodologie, concrètement.
C'est vrai.
On en revient à l'amour, parce que finalement on l'a pas abordé ce sujet.
Bah oui.
Il y a de plus en plus de personnes qui sont célibataires. Étrangement, on n'a jamais pu autant rencontrer de monde grâce aux applications de dating XY. Et en même temps, on a jamais eu autant de mal à rencontrer quelqu'un. C'est très, très étrange. Il y a même des... J'ai une personne proche, pour le coup, c'est toujours... Enfin, on fait toujours ça, on a toujours tendance à ramener avec des personnes proches, évidemment, quand on fait ce genre de conversation, qui me dit... Non, mais en fait, c'est un truc de la famille. Nous, on doit... dans ma famille, on ne doit pas être avec quelqu'un, on répare, etc., etc. Donc, c'est une croyance limitante.
Limitante.
Comment on fait pour trouver sa place en amour et comment on casse ces croyances limitantes, justement?
Alors, mais c'est concevoir déjà que c'est une croyance limitante, la moitié du boulot est fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, effectivement, on a compris que ce n'est pas nous qui sommes incapable de trouver l'amour, mais que on porte certainement sur nos épaules. Et si ça dure depuis longtemps, il y a plus de deux personnes dans notre famille qui a vécu ça. Mais il est probable que dans notre famille, il y ait des personnes qui aient vécu un certain nombre d'épreuves autour de l'amour. Déjà comprendre ça, on a fait la moitié du boulot. Parce qu'après, effectivement, en remplissant les tableaux, on va essayer de comprendre. Et donc, là, où est-ce qu'il faut chercher ? Il faut chercher. Est-ce que ma mère était heureuse en amour ? Est-ce que mon père était heureux en amour ? Même chose pour les grands-parents, les oncles et tantes. Ensuite, est-ce que... Parce que parfois, on a l'impression que tout va bien, que oui, ils sont amoureux, machin, etc. Mais au fond... Finalement, la personne, moi, je pense à ma grand-mère. Ma grand-mère, elle se rêvait chef d'entreprise. Bon, elle a été coiffeuse toute sa vie, complètement sous le joug de mon grand-père, et donc elle n'a jamais trouvé sa place professionnellement. Et en plus, elle a longtemps été trompée, donc humiliée. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'amour. Empêche de s'épanouir professionnellement, apporte de l'humiliation et beaucoup de tristesse et d'injustice et de trahison. Bon. Et donc, il est évident que cette grand-mère a pu rentrer à l'intérieur d'elle et se dire, malgré elle, elle l'a pas voulu, l'amour empêche d'être heureux. Et donc, nous, finalement, on va tomber que sur des personnes qui sont indisponibles parce qu'il y a quelque chose de cet ordre qui se rejoue. Autre cas, moi j'avais une tante, elle était religieuse, vœu de chasteté, voilà. Et en plus elle était venue religieuse suite à un dépit amoureux.
Oh, wow. Okay.
Donc c'était pas une vocation à proprement parler. C'est les hommes, c'est horrible, ça rend trop. Ils sont gros méchants. Et donc je rentre dans les ordres. Bon. Bien sûr qu'on a pu hériter. En plus, moi, je porte le même prénom qu'elle. Voilà. Moi, l'amour, au début, ça a été compliqué pour moi. Oui, ça a été compliqué pour moi. Voilà. Après, on a parlé d'inceste, on a parlé de viol. Malheureusement, il y en a dans toutes les familles. Ou des attouchements ou des choses comme ça, ou j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, avec mon frère ou ma sœur on avait des jeux, c'était pas forcément des jeux, c'était bon, voilà. Et j'ai encore une autre personne qui m'a dit oui, je me suis fait agresser par mon frère, par mon oncle qui lui-même avait vu sa sœur être agressée par son propre père et qui avait voulu la défendre, qui n'avait pas pu, et de victime est devenu bourreau. Enfin, c'est compliqué. c'est compliqué. Mmh. Bon. Et oui, bien sûr qu'à partir du moment où il y a inceste, où il y a eu viol, où il y a eu attouchement, ou en tout cas il y a eu violence physique, l'ordre de l'amour est faussé. Le rapport à l'homme ou à la femme est faussé. Mmh. Et il y a quelque chose de l'ordre de l'amour que j'ai vécu n'est pas dans l'ordre des choses, n'est pas normal, me pèse et fausse toute ma relation au sexe opposé. Et il y a quelque chose de l'ordre de c'est horrible. Et nous, on récupère cette information malgré nous. Moi, j'ai des femmes qui m'ont dit, je ne sais pas pourquoi, les hommes me font peur. Je n'ai jamais été violée, je n'ai jamais été attouchée, je n'ai jamais été violentée. Les hommes me font très, très peur. Bon, eh bien, ça vient d'un héritage transgénérationnel. Ou bien, par exemple, je me souviens d'une femme dont la mère est folle amoureuse d'un homme qui n'est pas amoureuse d'elle. Bon. Mmh. Et pour rendre cet homme amoureux, elle couche avec le meilleur ami de cet homme.
Ok. Bon.
elle tombe enceinte. Bon, eh bien, finalement, la fille de cette femme-là n'est jamais tombée sur un homme disponible. Tout le temps à l'étranger, un homme impossible. Mmh. Voilà. Pourquoi ? Parce que quelque part, sa mère se disait « L'amour, le vrai amour, l'amour de ma jeunesse est impossible. Mmh. » Ça devient « L'amour est impossible. » Donc, pour les personnes qui vivent cet amour difficile, qui est impossible, j'aurais envie de dire, peut-être qu'il se cache un secret, quelque part. Ça me donne des frissons, ça doit parler aussi. Il y a peut-être un secret autour d'un amour qui a été impossible. Et qu'on n'a pas été, finalement, on n'a pas épousé, on n'a peut-être pas vécu avec la personne dont on était pleinement amoureux. Ou peut-être que on a été amoureux de notre mari, voilà, mais on a eu un amant ou une maîtresse pour un homme, parce que ça marche dans les deux sens.
Bien sûr.
Et on n'a jamais pu finalement mettre cet amour au grand jour par rapport aux enfants, par rapport à notre épouse ou notre époux qu'on respecte. Et donc finalement, mettre cet amour au grand jour est impossible. Et à cause de tout ça, eh bien finalement, ça pèse sur notre vie. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir faire un protocole avec notre père ou notre mère, avec notre tante ou notre oncle, avec nos grands-parents. Ça va prendre du temps et ça vaut tellement la peine. J'ai une vidéo d'une femme, je l'ai rencontrée au Mans et elle avait 65 ans. Elle me dit, j'ai fait les protocoles sur l'amour. J'y croyais pas. Et elle me dit, et regardez maintenant. Et à ce moment-là, je l'ai en vidéo. Et à ce moment-là, je me retourne vers elle. Et comment dire, il y a un monsieur à côté d'elle. Et puis il fait ça. En fait, c'est lui qui la filme. Je trouve ça trop chou.
Oh, waouh.
Et elle dit, j'étais en dépression. J'étais triste. Il est possible qu'elle ait fait les protocoles autour justement des enfants morts très jeunes. Parce que cette tristesse a été héritée. Et maintenant, elle est rayonnante, cette femme.
Ah, c'est incroyable.
Et elle a trouvé l'amour. Voilà, et j'en ai plein. Et j'ai beaucoup, beaucoup de témoignages. D'ailleurs, j'en partage certains sur mes réseaux qui me disent, j'ai fait des protocoles et j'ai trouvé l'amour. J'ai une dame, Nathalie, qui habite à Toulouse et qui a fait les protocoles. Et une semaine après, elle a trouvé l'amour. Et elle est toujours avec lui et c'est incroyable en fait. C'est un ami d'enfance qu'elle a retrouvé une semaine après les protocoles.
Bon, il ne faut pas que les gens espèrent non plus en faisant le protocole rencontrer quelqu'un une semaine après, mais en tout cas, l'histoire. Mais pourquoi pas ? En fait, ça marche.
Pourquoi pas ?
C'est ça qui est fou.
En tout cas, il y a quelque chose à comprendre et dans cette épreuve, Il y a un fardeau émotionnel qui nous appartient pas, dont on peut se libérer. Mmh. C'est juste ça. C'est et on peut très bien dire ok l'univers, on parle aux étoiles, à ce qu'on veut, et on dit écoute j'ai compris ton message. Il y a une blessure qui m'appartient pas autour de l'amour. Je vais m'en libérer. J'ai pigé. Maintenant tu peux mettre la bonne personne devant moi. Mmh. Et on laisse faire les choses.
Vous faisiez référence tout à l'heure à votre grand-mère. Une question que du coup ça réveille en moi, c'est étant donné qu'on vit dans une société patriarcale très forte, et d'ailleurs vous parlez de votre position vous par rapport à Stéphane aussi pendant toute une période, est-ce que c'est plus difficile pour une femme, ça peut pas être genré, je veux dire évidemment c'est pas genré de manière naturelle, mais c'est genré dans le sens où on vit dans une société patriarcale qui est totalement genrée, est-ce que c'est plus difficile pour une femme de trouver sa place dans notre société
oui.
aujourd'hui?
Oui, alors oui. Bien sûr, parce qu'il y a tellement eu de femmes qui n'ont pas eu le droit à la parole, tellement eu de femmes qui ont été mises sous cloche par leurs propres parents déjà, par ensuite par leur mari, etc. Mais cet héritage émotionnel de « je suis sous cloche, je n'ai pas ma place », il peut aller vers une femme comme un homme. Il va toujours auprès de l'enfant le plus à même d'en guérir. On sait très bien, je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs, mais vous portez pas les mêmes casseroles que vos frères et sœurs. Il y a certains trucs où vous dites, bon, ça c'est papa, ça c'est maman, et toi, ça c'est papa, ça c'est maman, on est d'accord. Bon. Donc, la bonne nouvelle, c'est que finalement, si on a hérité d'une épreuve, eh bien, c'est qu'on est à même d'en venir à bout. Et quand, sur cette question de la place, de l'invisibilité dont vous parliez, moi je me suis posé la question même vis-à-vis des hommes et j'ai réalisé assez tardivement, j'avais jamais fait un protocole avec lui, que mon grand-père paternel avait été complètement sous la coupe de sa femme et de sa belle-mère. Il n'avait pas le droit à la parole. Et moi ça s'est rejoué sur le plan professionnel, c'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'à un moment donné il y avait un projet qui m'était on me dépossédait en fait de mon projet. Un projet c'est comme un bébé, donc bien on sûr. M'enlevait la maternité de mon projet, donc j'ai cherché tous ceux qui avaient été privés de maternité et de paternité, et ce grand-père finalement il avait tellement pas droit à la parole que, alors qu'il a jamais divorcé, alors qu'il a jamais perdu d'enfant, etc., eh bien il avait quelque part pas sa place en tant que père. Il a été privé de sa paternité. Et donc, j'ai fait un protocole 7, pour le coup, avec lui, en disant, tu n'as jamais eu droit à la parole, tes enfants, c'est comme si tu ne les avais pas élevés toi-même. Tu étais invisible dans ta paternité. Et moi, professionnellement, on m'enlève de ma maternité par rapport à mon projet. Donc, cette épreuve-là, ce n'est pas la mienne, je m'en libère comme je t'en libère. Voilà. Et donc, c'est important de chercher auprès des femmes, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu des hommes qui ont été sous la coupe des femmes ou sous la coupe d'un père très autoritaire. Par exemple, imaginons un père qui voulait être aviateur ou peintre ou acteur et qui a dû reprendre l'entreprise familiale. Il n'est pas à sa place. Il n'a jamais trouvé sa place. Et peut-être que nous, eh bien, on ne trouve pas notre place dans notre couple tout simplement parce que notre père, il n'a pas trouvé sa place aussi dans son travail. Ce qui n'est pas évident, c'est que chercher sa place, c'est aussi chercher ceux qui n'ont pas eu leur place, mais pas forcément dans le même domaine.
Et en même temps, quand vous dites ça, il y a un truc qui résonne chez moi, c'est le courage. Parce qu'une fois qu'on se dit « en fait, je ne suis pas à ma place », après, ça demande énormément de courage pour changer. C'est-à-dire que ce soit en couple, que ce soit dans le travail, et qu'on se dise « oui, en fait, ce n'est pas la bonne personne ou ce n'est pas le bon travail ». Comment je fais pour trouver le courage pour passer à l'acte en fait et changer finalement?
Alors ça c'est une super question. J'ai envie de dire que si c'est compliqué, peut-être qu'on a hérité d'une personne qui a eu du mal à passer à l'acte, qui aurait voulu peut-être divorcer, qu'elle a jamais fait. Peut-être que j'ai à nouveau des frissons. Peut-être qu'il y a eu des
désolé, hein, je...
tout va bien. C'est mon quotidien. Peut-être quelqu'un qui aurait voulu faire quelque chose et qui ne l'a pas fait parce qu'il n'a pas eu le courage. Et peut-être que c'est tout simplement, imaginons qu'on ait eu par exemple un père ou une mère qui n'ait jamais eu de diplôme et qui se soit senti nul et en tout cas peut-être pas à la hauteur, et en tout cas en disant « je mérite pas le succès » ou en tout cas, voilà, qui a été rabaissé parce que pas diplôme ou rabaissé par ses parents, il y a quelque chose de l'ordre de « je ne peux pas y arriver ». Et nous, on a peut-être hérité de ce côté « je peux pas y arriver » alors qu'on a toutes les capacités pour y arriver.
Bien sûr.
Donc on va faire, en faisant ce protocole 6+, finalement, avec notre mère ou avec notre père, on va lui dire, tu as vécu ça, alors c'est pas mon épreuve, je m'en libère comme je t'en libère. Mais on va aussi dire, tu as engrammé dans ton corps la croyance limitante que parce que tu n'avais pas de diplôme, eh bien, tu n'étais pas légitime d'y arriver. Et dans ma vie, ben, j'ai comme un frein, comme un autoblocage. Et ce blocage, j'en veux pas, c'est pas ma croyance limitante. Je m'en libère comme je t'en libère. Et j'ai personne comme ça qui, le confinement, ça a montré beaucoup à beaucoup de personnes la nécessité de faire des choses qu'elles aimaient vraiment. Et donc, il y a bien beaucoup sûr. De gens qui ont voulu changer de métier et qui osent pas. Bon, eh bien, j'ai reçu énormément de témoignages de personnes qui m'ont dit « Je me suis libérée de la croyance limitante de mon père et de ma mère. Alors que je m'étais formée, par exemple, à la sophrologie et que j'avais juste un patient le samedi et que du coup, je me disais bah, « Je ne peux pas me lancer parce que je n'ai pas assez pour vivre. » Après avoir fait ces protocoles, tout d'un coup, j'ai eu 5, 10, 15 demandes. Et donc, ça y est, maintenant, je sais que je peux y aller.
Waouh. C'est incroyable. Enfin, je veux dire, c'est toujours...
Alors, je précise que le côté waouh, il peut arriver dans le cas d'héritage, parce que moi, j'ai vraiment vu des côtés waouh, mais que c'est pas une baguette magique non plus.
C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le couple. Faut faire attention. C'est-à-dire, ben, ça marche pas, en fait, une semaine après.
Voilà.
Faut faire attention à ça.
Voilà. Et je dirais que les resets énergétiques, retrouver notre énergie, il faut les faire avec toutes les personnes qui ont pris d'énergie. Il y a beaucoup de boulot. C'est long, il faut le faire, faut pas perdre courage et il faut faire et moi je continue à les faire dès que si je reçois un mail difficile etc, quelque chose qui me perturbe, je dis bon, comment je le vis, je le relis à ces 10 émotions dont j'ai parlé tout à l'heure et je cherche dans mon passé qui a pu vivre ces émotions ou des épreuves équivalentes symboliquement parlant et je fais les protocoles, j'en ai encore refait dimanche dernier. C'est le travail de toute une vie. Voilà, ce n'est pas magique, c'est, on va pas se libérer de choses qu'on vit depuis un peu
comme
plus
ça.
30 ans on va dire
31.
Voilà, 31 et demi aussi vite, voilà, et ça va prendre du temps mais le principal c'est qu'on y arrive.
Et quand vous parlez de baguette magique d'ailleurs, il y a un message que je trouve hyper important dans votre livre, c'est donc vous parlez de santé entre autres, et vous parlez de la symbolique des mots, donc des mots M-A-U-X, hein, évidemment, mais vous dites, attention, si vous êtes malade, allez chez le médecin. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, les protocoles, ils ont aussi une limite, c'est-à-dire que ça n'empêche pas d'aller chez le médecin, on ne va pas se soigner non plus.
C'est même pas une histoire de limite, c'est que c'est essentiel. Et c'est essentiel pour trois raisons. La première, c'est que si on a un problème de santé et qu'on souffre, si on souffre, on ne peut pas travailler sur l'énergétique. Donc, il va falloir arrêter les symptômes. Première chose. La deuxième raison pour laquelle on va aller voir un médecin, c'est que s'il y a prolifération des éléments pathogènes, et je ne parle pas uniquement de cancer, ça peut être une angine, ça peut être n'importe quoi, eh bien, on sait très bien que si ça descend sur le cœur, sur les poumons, ça peut être grave, et il faut stopper. Donc, les médicaments sont indispensables. La troisième raison, qui est plus subtile, mais qui est tout aussi importante, c'est le fait que depuis qu'on est tout petit, on a appris finalement que dès qu'on a un souci, on va voir le médecin. Et si jamais on ne fait pas quelque chose de normal, il y a notre mental qui va chauffer, qui va se dire « Non, mais ça ne peut pas marcher pour moi. » Donc ça, le mental, il faut le rassurer. Alors, on va me dire « Mais si on va voir le médecin et que tout va mieux, finalement, pourquoi travailler sur les protocoles sur le plan énergétique ?» Tout simplement pour éviter que ça revienne. Puisque si mon corps me fait passer un message qu'il a du mal à dire à travers finalement quelque chose qui s'exprime à l'intérieur de mon corps, voilà, les migraines, ce sont autour des peurs, c'est de la confusion, voilà, le message que le corps a à me dire, eh bien finalement, si je veux éviter que ça revienne, je travaille sur le plan énergétique. Et les médecins de famille sont les premiers, effectivement, à dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils revoient toujours les mêmes patients pour les mêmes pathologies. J'ai mal au coude, et puis finalement, je prends des anti-inflammatoires et j'ai mal à l'autre coude, ou ça revient 6 mois plus tard. On a touché, finalement, les symptômes, on n'a pas touché la cause. Et la cause, elle est émotionnelle. Et c'est pour ça qu'il y a tout ce travail. Mais le médecin, il est à la base. Et parfois, j'ai des personnes qui me disent « Oui, j'ai commencé à tes protocoles, alors ça va un peu mieux, mais ça marche pas. » Je dis « Tu es allé voir un médecin ?» Non, je dis « Va voir un médecin. » Parce que si tu souffres, t'es crispé et tu peux pas travailler en énergétique de la même manière. Donc, c'est indispensable. Et merci de m'avoir permis de le préciser.
Non, non, c'est important. Par contre, après, évidemment, ce que vous disiez, c'est qu'il y a une symbolique dans les mots. Et ça aussi, je trouve ça hyper important. Par exemple, l'eczéma ou... Enfin, peu importe. Enfin, d'ailleurs, vous passez... Alors, j'ai pas le bouquin dans les mains là, mais vous passez en revue un certain nombre de mots et expliquez... à quoi ça peut avoir, avec quoi ça peut avoir un rapport, en fait. Et ça, c'est hyper intéressant.
L'eczéma, c'est en lien avec une double blessure d'abandon ou de rejet. Parce que l'abandon, il se transforme en rejet quand on devient adulte, très souvent. Voilà. Et donc, on va chercher, est-ce qu'on a vécu un divorce de nos parents? Est-ce qu'on a vécu un deuil douloureux? Ça peut même être un deuil d'un animal. Est-ce qu'on a perdu la garde de nos enfants? Voilà. Est-ce qu'on peut vivre un abandon après avoir perdu un emploi? Voilà, donc eczéma, psoriasis, toutes ces choses-là, c'est quand on se sent abandonné, et ça peut être hérité. Par exemple, si notre père ou notre mère est parti en pension à l'âge de 5 ans ou a perdu son père ou sa mère à l'âge de 5 ans, il y a quelque chose de l'ordre de je me sens abandonné. Et donc, on a pu en hériter nous aussi. Et l'eczéma, il est là pour dire il y a quelqu'un avant toi qui a vécu de l'abandon, et tu peux t'en libérer. Et on va parler à son corps, pour le protocole 3, pour justement dire, bon, mon corps, j'ai compris, cet eczéma, j'ai hérité de ma blessure d'abandon de un tel, tu peux l'enlever parce que je vais m'en libérer. Voilà.
Parfait. Natacha, il y a une question que je me pose. Est-ce que il y a une question, parce qu'en fait, quand j'ai écouté plein de podcasts avec vous, etc., je livre, etc., est-ce qu'il y a une question qu'on ne vous pose pas et que vous aimeriez bien qu'on vous pose?
Alors là, c'est une bonne question. J'ai envie de dire, est-ce que la question qu'on pourrait me poser, c'est est-ce que aujourd'hui, tous ces protocoles, est-ce que ça vous semble encore évident et normal? Et ma réponse serait non. Je suis encore stupéfaite tous les jours. Des résultats avec des personnes qui m'écrivent, que ce soit sur Facebook, Instagram ou via mon site, et qui me témoignent, me disent « Je sais que vous pouvez pas me répondre, que vous êtes débordés, mais je voulais juste vous dire que j'ai fait ça et que j'ai trouvé un travail, ou bien j'ai trouvé la maison de mes rêves en une semaine. » À chaque fois, c'est un émerveillement et je suis stupéfaite et il y a des fois je me dis même est-ce que c'est réel tout ça, tellement c'est fort. Et j'ennuie beaucoup mon mari. Il y a des fois, je lui dis, tu te rends compte, on vient de me raconter ça. Il me dit, oui, c'est bon, je sais que ça marche et tout. Mais moi, il me dit, c'est bon, allez, arrête de faire ta fierotte. Non, mais je lui dis, mais je fais pas ma fierotte, c'est juste que je suis épatée, quoi.
Ouais,
je suis épatée.
Ça.
Épatée de campagne, même. Oh non, elle est nulle, ma blague, elle est nulle. elle vole pas très bas.
C'est pas bien, c'est rigolo quand même. Non, mais c'est vrai, je comprends totalement le sentiment parce que je peux, alors, à mon petit niveau à moi, avoir la même sensation avec des retours sur le podcast et les gens qui me disent ah, mais ça m'a tellement aidé, etc.
Voilà.
Et je vois, et c'est tellement satisfaisant, en fait, en vrai, c'est fou.
Et il est évident, Grégory, que si vous faites ce podcast, sans que vous ayez à me répondre, vous avez vécu des choses difficiles et vous avez envie de partager à travers ce podcast des choses qui vous ont aidé ou qui vont vous aider parce que vous avez à l'intérieur de vous envie de vous transformer, d'avancer, où il y a quelque chose de généreux, ce que j'appelle le syndrome du Saint-Bernard à l'intérieur de nous.
Non, mais il y a cette générosité, c'est sûr, et puis ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que Moi, je crois que je suis bien, bien ancré maintenant. Enfin, on a toujours plein de trucs à travailler. Hein. C'est parce que je suis pas en train de dire que voilà, je suis ni Jésus, ni Bouddha, ni rien. Mais après, c'est prendre soin des uns des autres. Et en fait, le podcast, c'est une manière de prendre soin des autres. Alors,
bien sûr.
C'est pas voilà, c'est différent avec les amis et les gens proches, évidemment. Mais il y a quand même ça. Et puis, je crois que moi, dans ma vie, en tout cas, j'ai appris que. En fait, on pouvait apprendre énormément. Et je crois que la transmission, c'est quelque chose d'essentiel. Et donc, c'est aussi pour ça que j'essaie de transmettre au maximum pour que les personnes vivent une vie qui est plus sereine, tout simplement. Donc voilà, c'est un peu ça, toute l'idée de ce podcast, c'est de permettre aux gens aussi d'avoir une vie plus sereine et donc de comprendre leur environnement, de se comprendre eux-mêmes. Parce que ça me semble essentiel, en fait, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, sans religion et donc sans croyance, les gens, ils ont besoin de croire aussi. C'est compliqué, en réalité, de faire face. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je vous posais la question sur le fait de la responsabilité individuelle, etc. Et en fait, c'est beaucoup de poids de se dire, mais attends, je suis responsable de tout ce qui m'arrive. C'est énormément de poids. Et c'est aussi ça, l'idée de prendre soin des uns des autres, pour moi, enfin, qui me semble importante.
Bah, c'est génial. Et merci. Ouais.
Bah non, mais merci à vous de participer à ce grand mouvement. Ce podcast s'appelle Vlan. On pourrait parler encore beaucoup, non, enfin, pardon pour les genres de personnes qui écoutent. Je sais qu'en fait, on pourrait, avec Natacha, je crois, traiter différents sujets, etc., etc. Mais après, il faut simplement acheter le livre et aller découvrir par vous-même. Donc, ce podcast s'appelle Vlan. Donc, j'aimerais savoir à quoi vous voulez ouvrir et où claquer la porte.
À la tristesse dans ce monde. Il y en a tellement. Il y a tellement de tristesse et de colère. Je rêve que toutes les personnes fassent des protocoles autour de la tristesse et de la colère, parce qu'il y en a eu beaucoup et depuis toujours, et pour que les gens se sentent mieux. Ouais, j'aimerais bien claquer la porte à la tristesse et à la colère.
Parfait, parfait. Merci beaucoup, Natacha.
Merci beaucoup, Grégory. C'était un plaisir.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt !